Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro au sommaire de cette édition du mercredi 1er mai 2024. Tension dans l'est de la RDC avec le retrait des casques bleus et les combats autour de la ville minière de Rubaya. Au Royaume-Uni, les premiers migrants susceptibles d'être expulsés vers le Rwanda ont été arrêtés et placés en détention. 163 pays dans le monde ont célébré aujourd'hui la fête du travail.
On garde espoir que les choses s'améliorent et surtout que le gouvernement camerounais puisse s'engager, comme il l'a promis au niveau de la SND 30, de favoriser les entreprises qui ont pour objectif de favoriser l'environnement.
Nous braquons dans la partie magazine les projecteurs sur le 1er mai au Cameroun et au Burkina Faso. Les États-Unis déterminés à obtenir maintenant un accord Israël-Hamas selon Anthony Blinken actuellement en Israël. Ici aux États-Unis, affrontements entre policiers et étudiants pro-palestiniens. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant le journal. Le président de la Guinée-Bissau a déclaré que son gouvernement ne va pas extrader l'ancien chef d'État de la République centrafricaine, François Bozizé, en exil à Bissau et visé par un mandat d'arrêt international. Oumaro Sissoko Embalo estime que la loi du pays ne le permet pas et s'est dit surpris avant de rappeler que la Guinée-Bissau a été sollicitée dans le cadre de l'Union africaine pour accueillir le président Bozizé dans le cadre de l'asile politique. Rappelons que la Cour pénale spéciale parrainée par l'ONU est basée à Bangui a rendu public hier mardi un mandat d'arrêt international émis le 27 février à l'encontre de François Bozizé pour répondre de crimes qui auraient été commis entre février 2009 et le 23 mars 2013 par la garde présidentielle, d'autres forces et les services de sécurité intérieure dans la prison civile et le centre d'entraînement militaire de la ville de Bossambélé. En République démocratique du Congo, le mandat de la MONUSCO dans le sud Kivu a officiellement pris fin aujourd'hui, 1er mai. Dans le même temps, de nouveaux affrontements ont eu lieu à 40 km de Goma. Claire Morin-Jibou.
C'est désormais officiel. La mission des Nations Unies a annoncé hier la fin de ses opérations dans la province de l'Est congolais conformément au plan de son retrait souhaité par Kinshasa. Notre responsabilité de protéger les civils incombe désormais aux forces de défense et de sécurité de la RDC, a précisé la MONUSCO. Le retrait de la MONUSCO de l'Est congolais a été amorcé alors que la rébellion du M23 sévit depuis plus de 2 ans. De violents combats ont opposé hier le mouvement rebelle aux forces gouvernementales autour de la cité minière de Rubaya, à une quarantaine de kilomètres de la capitale provinciale Goma. Les rebelles ont pris plusieurs collines surplombant la ville, ont rapporté des témoins qui précisent que les combats ont provoqué de nouveaux déplacements de population.
Les premiers migrants susceptibles d'être expulsés par le Royaume-Uni vers le Rwanda ont été arrêtés et placés en détention. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le gouvernement britannique. Rosine Monizero fait le point.
Ces migrants en situation irrégulière devant être expulsés vers le Rwanda ont été interpellés à la suite d'une série d'opérations menées cette semaine à l'échelle nationale, écrit le ministère de l'Intérieur dans un communiqué qui ne précise pas le nombre de personnes concernées. Cette action est un élément clé du plan visant à assurer des vols vers le Rwanda dans les 9 à 11 semaines à venir, a poursuivi le ministère. Le gouvernement conservateur de Rishi Sunak a promis de mettre un terme aux traversées de la Manche par des migrants clandestins. Plus de 7500 sont arrivés depuis le début de l'année, un record historique pour les 4 premiers mois de l'année. Le Parlement britannique a adopté la semaine dernière une loi très controversée permettant d'expulser vers le Rwanda certains de ces migrants. Leur demande d'asile sera examinée dans ce pays d'Afrique de l'Est et ne pourront pas revenir au Royaume-Uni, quelle que soit l'issue de leur démarche. Le gouvernement compte commencer les expulsions au début de l'été.
Les inondations et les glissements de terrain au Kenya ont tué 181 personnes depuis le mois de mars. Des milliers de familles ont été forcées de quitter leur maison, a déclaré le gouvernement ce mercredi, alors que des dizaines d'autres personnes ont été tuées dans les pays voisins, notamment en Tanzanie et au Burundi. Les pluies torrentielles et les inondations ont détruit des maisons, des routes, des ponts et d'autres infrastructures dans toute la région. En Tunisie, plus de 2500 militants de la grande centrale syndicale UGTT ont manifesté dans le centre de Tunis à l'occasion de la fête du 1er mai en défense du dialogue social et du droit syndical. Les manifestants brandissaient également des drapeaux palestiniens pour soutenir les Palestiniens de Gaza.
VOA Afrique à Washington. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Proche-Orient, les États-Unis sont déterminés à ce que Israël et le Hamas concluent un accord de trêve associé à une libération d'otages. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire d'État Anthony Blinken en visite à Tel Aviv, en Israël. Les précisions de Yacouba Ouedraogo.
Nous sommes déterminés à obtenir un cessez-le-feu ramenant les otages chez eux et à l'obtenir maintenant. Et la seule raison pour laquelle cela ne se ferait pas, c'est le Hamas, a affirmé Anthony Blinken à Tel Aviv en rencontrant le président israélien Isaac Herzog. L'Égypte, le Qatar et les États-Unis attendent la réponse du Hamas à la dernière mouture d'une offre de trêve comprenant une pause de l'offensive israélienne et la libération de détenus palestiniens contre la libération d'otages israéliens. Le Hamas réclame un cessez-le-feu permanent avant tout accord, ce qu'Israël refuse. L'État hébreu se dit déterminé à mener une offensive terrestre à Rafah, ville du sud de la bande de Gaza, considérée comme le dernier bastion du Hamas et où s'entassent 1,5 million de Palestiniens, en majorité déplacés par la guerre. Le secrétaire d'État américain s'est rendu à Jérusalem où il s'est entretenu avec Benjamin Netanyahou, à qui il a réitéré, selon un porte-parole du département d'État, l'opposition des États-Unis à une offensive sur Rafah. Le premier ministre israélien a répété mardi qu'avec ou sans accord de trêve, l'armée israélienne entrerait dans Rafah.
Anthony Blinken a visité aujourd'hui le site de Kerem Shalom. C'est par ce passage, entouré des pins murs de béton, que transitent des camions transportant de l'aide humanitaire de la bande de Gaza. Les livraisons y sont inspectées, un processus dont des ONG dénoncent la lenteur. Le chef de la diplomatie américaine a plaidé auprès du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour davantage d'aide humanitaire à Gaza. Ici à New York, la police a délogé hier soir des manifestants pro-palestiniens barricadés dans un bâtiment de l'Université Columbia. Des affrontements ont éclaté entre manifestants, également dans la nuit, sur le campus de l'Université UCLA à Los Angeles. Nathalie Bage.
La police de Los Angeles est intervenue à la demande de l'université en raison de nombreux actes de violence commis dans le campus, a annoncé la police sur X. Des manifestants pro-palestiniens et pro-israéliens s'affrontaient à coups de bâtons, de feux d'artifice et se lançaient divers objets. Le chancelier de l'UCLA, Gene Block, avait mis en garde avant ces heures contre la présence de personnes extérieures à l'université. Certains actes de violence ont provoqué une profonde anxiété de la peur, particulièrement chez les étudiants juifs, a-t-il déclaré. À l'université de Columbia, la police de New York a dû intervenir pour déloger des manifestants pro-palestiniens barricadés qui veulent que la direction coupe les ponts avec des mécènes liés à Israël. Le mouvement étudiantin a fait réagir des politiciens. Alors que l'université Columbia est plongée dans le chaos, Joe Biden est absent parce qu'il a peur de s'attaquer au sujet, a écrit sur X le chef républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, qui réclame le départ de sa présidente, Minouche Shafik. Occupé par la force, un bâtiment universitaire ne représente pas un exemple de manifestation pacifique, avait estimé avant l'intervention de la police John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale.
Au Congrès américain, une élue de la droite dure, Marjorie Taylor Greene a annoncé ce mercredi qu'elle déposerait la semaine prochaine une motion pour destituer le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, pour avoir soutenu l'envoi de nouveaux fonds à l'Ukraine. Parlementaire proche de Donald Trump et connu pour ses frasques, Marjorie Taylor Greene accuse le responsable du Congrès, membre de son parti, de trahison. La Russie a déclaré ce mercredi avoir frappé le quartier général du groupement sud des forces ukrainiennes situé à Odessa, où l'Ukraine a fait état d'une attaque de missiles ayant fait 3 morts. Le commandement militaire sud a pour sa part déclaré que des bâtiments administratifs et résidentiels et des institutions médicales et éducatives avaient été touchés. Et puis, 210 manifestants ont été interpellés aujourd'hui à Istanbul lors du rassemblement du 1er mai, alors qu'ils tentaient d'accéder à l'emblématique place Taksim, selon les chiffres du ministère turc de l'Intérieur. Mardi soir déjà, le président Erdogan avait dénoncé les organisations terroristes qui veulent faire du 1er mai un outil de propagande et mis en garde les syndicats et partis politiques contre toute action qui nuirait à l'atmosphère du 1er mai. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nanit Talani.
Le FMI annonce avoir conclu un accord avec le Mali pour un financement d'urgence d'environ 120 millions de dollars pour fournir l'approvisionnement alimentaire, un accès à l'eau potable, à des installations sanitaires et à un abri pour les personnes déplacées. Les coûts d'importation de biens essentiels, tels que les produits alimentaires et les engrais au Mali, ont augmenté en raison d'un resserrement des financements régionaux et des récents chocs géopolitiques, ajoute le FMI. Au Nigeria, les pénuries d'essence ont persisté mardi dans les grandes villes du pays, provoquant une forte hausse des prix et exacerbant la crise du coût de la vie dans le pays. Dans certains points de vente à Lagos et Abuja, les prix ont dépassé 850 naira et 1000 naira en dehors des grandes villes comme Kano, alors que la société pétrolière publique, la ANPC, qui importe les produits, les vend à 617 naira. Pour terminer, en Libye, le Parlement basé dans l'Est a approuvé le budget 2024 du gouvernement de 90 milliards de dinars libyens qu'il a mis en place à l'exclusion des projets de développement. Selon Aïcha Toubki, de la Chambre des représentants, ces projets ont été exclus du budget parce que le gouvernement exige 30 milliards de dinars libyens sur 3 ans, mais le Parlement veut plus de détails avant approbation.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Cyclisme avec la deuxième étape du Tour du Bénin.
Oui, c'est au sprint que Hamza Amari a remporté la deuxième étape courue aujourd'hui entre Parakou et Savé avec une distance de 156,420 km, la plus longue de cette édition. L'Algérien est suivi du Camerounais Kamsong Abosolo et de l'Allemand Leslie Leander. Mais le maillot jaune est revenu à l'Érythréen Yoel Habteab de Team Bike Aid de l'Allemagne, deuxième lors de la première étape, à une seconde d'écart du vainqueur. La troisième étape d'une distance de 113,800 km va se disputer entre Djidja et Atiémé ce jeudi.
Suite fin ce mercredi des demi-finales allées en Ligue des Champions en Europe.
Le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain se retrouvent pour une place en finale de la Ligue des Champions. Après 2 rencontres lors de la phase de groupe, victoire parisienne 2-0 à l'aller et match nul 2 buts partout en Allemagne. Pour le technicien de Dortmund, Edin Terzic, le PSG a connu un profond changement à l'été 2023 et n'a pas forcément montré les prestations qu'il espérait en début de saison, mais a toujours obtenu des résultats. Les Allemands évolueront sans leur attaquant international ivoirien Sébastien Haller blessé. Hier, le Real Madrid et le Bayern Munich se sont neutralisés à match aller au terme d'une rencontre à rebondissement avec un pénalty de chaque côté 2 buts partout. Tout se jouera donc mercredi prochain au stade Santiago Bernabeu pour une place en finale à Wembley le 1er juin.
Athlétisme, Angelina Nadei, Loalit, suspendue pour dopage.
L'athlète sud-soudanaise, membre de l'équipe olympique des réfugiés, a été contrôlée positive à un produit dopant et suspendue à titre provisoire, a annoncé l'unité d'intégrité de l'athlétisme. Née en 1995, Angelina Nadei Loalit, réfugiée en 2002 au Kenya pour fuir la guerre, a fait ses débuts aux Jeux de Rio en 2016, puis fait partie de l'équipe olympique des réfugiés aux Jeux de Tokyo en 2021, où elle s'était alignée sur le 1500 mètres. Elle avait été éliminée dès les séries. L'unité d'intégrité de l'athlétisme a été créée en 2017 par World Athletics dans le cadre de la lutte contre le dopage et les autres questions d'intégrité, dont la corruption, les paris ou encore la manipulation des résultats de compétition.
Basketball, Tyrese Maxey sauve Philadelphie en play-off.
Dans un Madison Square Garden bouillant et hostile des Knicks, le jeune Tyrese Maxey, 23 ans, a réussi un match immense, son meilleur en play-off avec 46 points et 9 passes décisives pour permettre aux Philadelphia Sixers de n'être plus mené que de 3-2 par New York grâce à un succès 112-106. Après prolongation, Joel Embiid s'est lui signalé par un triple-double, 19 points, 16 rebonds et 10 passes décisives. Les Cleveland Cavaliers de Donovan Mitchell, 28 points, ont eux réagi après 2 défaites pour l'emporter de justesse à domicile contre le Magic d'Orlando, 104-103 et mené 3-2.
Page de sport VOA Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Cameroun, on a célébré la Journée internationale du travail dans un contexte toujours marqué par la rareté des emplois décents dans le secteur privé local. De nombreuses contraintes existent malgré certaines mesures d'accompagnement du gouvernement, des contraintes auxquelles fait face une jeune entreprise locale, Camerpad, fondée par trois jeunes femmes. Elles ont mis sur pied un projet pour fabriquer les serviettes hygiéniques lavables. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jelenta.
Une vingtaine d'ouvriers travaillent environ 5 heures au quotidien à la production des accessoires d'hygiène lavable dans deux ateliers de couture au quartier Ahala, au sud de la capitale Yaoundé. Mariette Aïssi fait partie du personnel.
C'est depuis 2012 que je suis ici à Camerpad. Mon travail, c'est, je suis là pour coudre les serviettes hygiéniques. Je suis très bien payé. Ça me permet d'être autonome.
Ici, le personnel est essentiellement féminin et dirigé par Olivia Mvondo, cofondatrice de Camerpad.
Il y a des femmes qui savaient coudre avant de venir travailler, donc elles ont été formées à la fabrication des serviettes hygiéniques. Après, vous avez d'autres profils de femmes qui ne savaient pas du tout coudre et qui sont venues apprendre à coudre la serviette hygiénique lavable.
Au-delà du chiffre d'affaires, l'entreprise a initié dans 10 écoles le programme dénommé « Soutenir la rétention des filles à l'école dans la région de l'Est ». Rolande Kouenang, coordonnatrice du DIP Pourgain.
C'est une région à grande partie déjà des réfugiés, des déplacés internes. Donc la question des règles a été longtemps tabou là-bas. Les parents n'en parlent pas dans les communautés, on n'en parle pas. Donc en créant dans ces clubs GHM, gestion de l'hygiène menstruelle, on les apprend à l'école déjà à briser ce silence, non seulement à l'école, mais aussi à la maison. Comment même entretenir les infrastructures qu'on a mises à leur disposition.
Au Cameroun, obtenir un emploi décent est un rêve pour de nombreux jeunes diplômés. Esther Edjo a pu concrétiser son rêve en intégrant l'entreprise Camerpad.
J'avais fait une formation en audit et contrôle de gestion. J'avais besoin d'un stage professionnel dans le cadre de mes études et puis je me suis retrouvé ici. 6 mois plus tard, puis j'avais soutenu mon mémoire. À la fin de mes études, je suis revenu pour demander après s'il y avait quelque chose à faire ou quoi et puis je suis resté.
Le gouvernement a octroyé des financements à cette jeune entreprise, à sa création et contribué à la promotion de ce projet lors de foires d'exposition du Made in Cameroun. Mais l'entreprise rencontre encore quelques difficultés. Olivia Mvondo, cofondatrice de Camerpad.
L'accès à la matière première, qui n'est pas en abondance, mais on garde espoir. On garde espoir que les choses s'améliorent et surtout que le gouvernement camerounais puisse s'engager, comme il l'a promis au niveau de la SND 30, de favoriser les entreprises qui ont pour objectif de favoriser l'environnement, c'est-à-dire nos protections, par exemple, elles limitent les déchets qui peuvent être faits quand on utilise des serviettes hygiéniques jetables.
Certaines agences du système des Nations Unies basées au Cameroun, dont des interventions cadres avec les problématiques liées à la jeune fille et aux femmes, sont parmi les plus grands acquéreurs des produits de Camerpad. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Burkina Faso, ce 1er mai est célébré dans un contexte difficile pour les travailleurs qui se sont vus interdits une marche par les autorités. Néanmoins, ils ont tenu un meeting à Ouagadougou dans un contexte où le secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Burkina, Moussa Diallo, enseignant-chercheur, a été licencié pour abandon de poste. Yacouba Ouedraogo a joint à Ouagadougou Ernest Abdoulaye Ouedraogo, secrétaire général de l'Union syndicale du Burkina.
Ce matin, à 7h30, nous avons reçu un courrier du PDS, le président de la délégation sociale. D'abord, nous félicitons par rapport au 1er mai, reconnaissant la bravoure et la détermination des travailleurs du Kenyan, et puis par la suite, il marque son désaccord par rapport à notre programme qui est de tenir une marche unitaire pour commémorer le 1er mai. Évoquant bien sûr le communiqué numéro 3 du PNPFR2 qui dit que tout était interdit, le rassemblement des politiques, des partis politiques, des élections, et tout de suite, c'est du faux, puisque ce communiqué là ne nous concerne pas nous syndicalistes, ça c'est un. Deuxièmement, ce communiqué était là en 2023. Et nous avons fait notre marche utile avec le ministre du Cahier de doléances en 2023. Pourquoi maintenant en 2024 ils viennent intervenir cela? Du reste, ce qui nous a le plus marqué, c'est qu'avant que le coulis du PDS ne vienne, il y a le directeur du ministère de la fonction publique qui nous a interpellé hier autour de 19h pour dire que la marche était interdite alors que nous n'avons pas d'information. En la matière, quand même, je sais que l'autorité est disposée de 24h pour nous dire oui, vous pouvez marcher, non, vous ne pouvez pas marcher. Ça n'a pas été fait.
Vous vous êtes rencontré à la Bourse du Travail. Quel est le message que vous avez passé aux autorités par rapport aux conditions actuelles des travailleurs au Burkina Faso?
Je dis les travailleurs qui arrivent le 2 août sont connus de tout le monde. Et deuxièmement, il y a quand même cette atteinte à nos libertés qui semble être récurrente. Donc, ça aussi, on a dénoncé. On a invité les travailleurs à se tenir près pour les mots de revenus. Quoi qu'on dise, les intérêts ne sont pas à discuter des intérêts de la nation. Et ça, nous, on le connaît, dans notre côté, dans notre côté. Bien, ils essaient de démontrer cela. Et je dis, l'autorité ne veut pas dire qu'elle n'a pas eu quand même un accompagnement de travail étant donné que nous avons offert une crève. Cela devait permettre à l'autorité quand même de pouvoir développer sa stratégie de défense du territoire.
Vous commémorez cette journée du 1er mai dans un contexte assez particulier parce que le secrétaire général de la Confédération générale du travail du Burkina a été licencié. Par l'autorité, justement. Comment vous avez accueilli cette nouvelle et dans quel contexte, justement, vous liez cela à ce 1er mai?
C'est vrai que le licenciement d'un syndicaliste, ça ne peut pas plaire à un syndicaliste. Ça, c'est clair. À la matière, il y a la procédure judiciaire qui va être engagée. S'il y a encore de la justice au pays, nous pensons que la justice sera dite. Maintenant, bien sûr, cela entache les activités, la communication du premier mai. On aurait pu être si aidé des centrales. Malheureusement, il y a un qui n'était pas là parce que mort, craignant à tout le monde d'être en ligne.
Ernest Abdoulaye Ouédraogo, secrétaire général de l'Union syndicale du Burkina.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Selon le rapport 2023 de Transparency International, la plupart des pays africains ne progressent pas dans la lutte contre la corruption. La corruption est toujours une réalité dans de nombreux pays africains, y compris au Ghana, selon la Commission des droits de l'homme et de la justice administrative du pays. La corruption représente environ 20% du budget national. Les groupes de la société civile se joignent à la lutte, relevant le défi de dénoncer la corruption et de pousser tout le monde à agir. Davantage avec Isaac Kaledzi, le récit est de Jenny Niwa.
Ces journalistes ghanéens préparent leur prochain grand reportage. Ils travaillent pour The Fourth Estate, un organisme à but non lucratif basé à Accra, une initiative d'intérêt public et de responsabilisation de la Media Foundation for West Africa. Son rédacteur en chef est Kofi Anchil.
Nous travaillons avec les Ghanéens, nous travaillons avec les dénonciateurs qui nous donnent des informations et nous examinons les problèmes et nous les approfondissons. Nous les présentons sous forme de publications, d'articles en ligne, de vidéos sur YouTube et autres, de documentaires grand public.
The Fourth Estate, entendez le quatrième pouvoir, se concentre principalement sur des sujets liés à la lutte contre la corruption. Depuis son lancement en 2021, il a publié plusieurs articles révolutionnaires sur la lutte contre la corruption. Parmi eux, un exposé du projet sur la déclaration de patrimoine suite à l'obligation faite aux fonctionnaires de déclarer leurs biens. The Fourth Estate, selon Kofi Anchil, a porté l'affaire devant la Commission ghanéenne des droits de l'homme et de la justice administrative qui a poursuivi l'enquête.
Lorsque nous avons publié cet article, 294 fonctionnaires environ se sont empressés de déclarer leurs biens. En fait, avant la publication, ils ne l'avaient pas fait, mais ils étaient en fonction. Mais lorsque nous avons publié l'article, ils se sont empressés de déclarer leurs biens et nous avons pensé que cela avait un impact et que cela envoyait le bon message aux autorités et aux fonctionnaires.
Les militants anticorruption affirment que la lutte contre la corruption au Ghana est devenue une tâche ardue malgré le lancement par le pays d'un plan d'action national anticorruption, un document de politique générale contenant des plans de lutte contre la corruption. Écoutons Marie Ada, directrice exécutive de Ghana Integrity Initiative.
Le plan d'action national de lutte contre la corruption était le modèle à suivre pour lutter contre la corruption. Mais on se rend compte qu'il existe de nombreuses lacunes dans le système auxquelles nous n'avons pas prêté attention, ce qui rend la lutte contre la corruption très difficile.
Parmi ces lacunes, on peut citer la faiblesse des lois qui entravent le travail des institutions publiques chargées d'enquêter sur les fonctionnaires corrompus et de les poursuivre en justice. Des groupes de la société civile, comme le Centre pour le développement démocratique, CDD, comblent ces lacunes et relèvent le défi. En 2017, l'organisation a lancé le projet Corruption Watch pour tenter de réduire la corruption publique par le biais d'un plaidoyer en faveur de la transparence. Kodjo Pumpuni Asante du CDD explique.
Nous sommes en mesure de mener des enquêtes originales. Nous avons de véritables journalistes d'investigation qui font partie de l'équipe et qui mènent leurs propres enquêtes. Mais nous essayons également de faire suivre les affaires qui sont en cours ou les affaires que nous pensons avoir été enterrées et que nous avons oubliées et que nous pensons devoir faire revivre.
La majorité des jeunes électeurs américains affirment vouloir un autre choix plutôt que Joe Biden ou Donald Trump à l'élection présidentielle de novembre. Cela est en partie dû à l'âge avancé des deux candidats, mais qui sont ceux qui soutiennent l'un des deux? Pour un élément de réponse, Scott Stern leur a tendu le micro. Le récit est de Nathalie Barge.
Dans une course à la présidence entre les deux candidats les plus âgés des grands partis, de nombreux jeunes électeurs se questionnent, comme Desmond Kager du New Hampshire, qui aimerait un choix différent.
Si les républicains ou les démocrates pouvaient mettre quelqu'un sur la liste pour qui cela vaut réellement la peine de voter, alors je voterai pour eux.
Une récente enquête du centre de recherche Pew révèle que les deux tiers des électeurs de moins de 30 ans remplaceraient ces deux candidats s'ils pouvaient. Alors, qui sont les jeunes qui soutiennent Biden ou Trump? Les préoccupations concernant les droits reproductifs pèsent dans la balance pour certaines jeunes femmes qui pourraient donc choisir le vote démocrate. Francesca Paniello, électrice du New Hampshire.
Pour moi, l'avortement, les soins liés à l'avortement, le droit de pouvoir choisir, c'est important.
Le droit à l'IVG et la marijuana récréative figure sur le scrutin de novembre en Floride, attirant les jeunes pour les causes du Parti démocrate. Jaiden Donofrio, électeur de Floride.
Les jeunes électeurs ont une réelle opportunité de façonner le paysage électoral ici en Floride. Nous avons vu que le droit au libre choix et à la marijuana récréative est important pour les jeunes électeurs.
Certains jeunes s'opposent à Biden pour son soutien à Israël dans la guerre à Gaza, d'autres non. Eliana Stein, électrice du Massachusetts.
Pour moi, l'une des choses les plus importantes est le soutien continu à Israël. J'apprécie donc vraiment tout ce que le président Biden a fait pour soutenir Israël dans ce conflit.
Briona Bonilla, électrice du Wisconsin, dit regretter d'être stigmatisée parce qu'elle soutient Trump.
J'ai essayé d'avoir des conversations avec des gens qui n'aiment pas Trump et ils me disent « tu peux partir, je ne veux plus te parler ». Les gens ne sont pas ouverts à l'écoute. Ils disent simplement, si vous aimez Trump, vous êtes une personne horrible. Alors je me sens mal.
Les jeunes partisans de Trump sont habitués à ce que l'on remette en question leur choix politique, comme Isaiah Turner, électeur du Wisconsin, qui approuve la position du candidat républicain contre la corruption.
Par exemple, si je vais dans les bars avec un chapeau Trump 2024, je reçois des regards bizarres. C'est fou, mais cela ne me dérange pas.
Un sondage Reuters Ipsos réalisé en mars montre que les Américains de 18 à 29 ans sont en faveur de Biden à seulement 3 points de pourcentage par rapport à Trump, une marge nettement inférieure à l'écart de 24% avec lequel Joe Biden avait remporté le vote des jeunes il y a 4 ans.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde de Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24.